Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure du journal régional présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Au sommaire des infos de ce mardi 2 janvier, les vœux de notre directeur pour 2018. Nous reviendrons aussi cette semaine sur les temps forts qui ont marqué ces 12 derniers mois, au premier rang desquels, en octobre dernier, l'élection de René Massette à la présidence du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. À Briançon, les bénévoles qui aident les migrants réquisitionnaient une maison inoccupée cet été. À la mode du Caire, les habitants se sont mobilisés pour la poste du village. Et puis, cet été, nous lancions une campagne de prévention pour les risques liés à la chaleur et à la pratique des sports d'eau vive.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en 2018 et avant de vous présenter mes bons voeux pour ce premier journal de l'année, je voudrais revenir sur celle qui s'est achevée. Que va-t-on retenir de 2017 et qu'a-t-elle représenté pour notre radio ? Il y a eu des changements, certes, j'y reviendrai, mais le monde ne tourne pas rond. L'obscurantisme, le terrorisme, les guerres, le réchauffement climatique et les catastrophes induites, l'égoïsme qui gagne du terrain, la laïcité attaquée par de sombres communautaristes très divers et toujours plus nombreux, les intellectuels et penseurs discrédités, les scientifiques raillés outre-Atlantique et surtout toutes ces victimes de la barbarie qui fuient leur pays à pied, à travers les montagnes et les déserts ou sur de frêles esquifs livrés au bon vouloir de passeurs sans scrupules. Qui osera dire que tout va bien, que ce sera vachement mieux demain, comme le chantait Jacques Higelin, qu'on est sur la bonne voie. Ah bon ? Ne soyons pas naïfs et il faut aussi du temps pour qu'un rayon de soleil du côté de la Bourse puisse gagner et réchauffer le bon peuple. De 2017, en France, on retiendra l'explosion des deux grands partis politiques de notre pays et le boulevard laissé à un quasi-inconnu un an avant son élection et qui, sans appareil, mais avec intelligence et énergie, a su charmer le bon peuple, justement, renvoyant à ses études la représentante d'une extrême droite hors sujet au plan national et ringardisée par une prestation cathodique catastrophique. C'est un vent d'espérance, plus que d'espoir, qui a accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête, même pas quadragénaire, et déjà à la manœuvre dans le pays de Marianne et en Europe, tentant de faire ami-ami avec l'imbécile borné de Washington et le guerrier malin de Moscou, essayant de rallier à son panache blanc les défenseurs de l'environnement, mais aussi mettant sous le tapis les droits de l'homme avec de pseudo-amis et vrais dictateurs arabes ou asiatiques. Dur métier que celui de chef de l'État du pays des Lumières. Et à l'intérieur, pour Emmanuel Macron, une majorité absolue au Palais Bourbon avec du sang neuf, des femmes, enfin, mais aussi des élus amateurs qu'il faudra recadrer parfois, accompagner et guider toujours. C'est là que le national rejoint le local pour nous. On le connaissait socialiste, mais les socialistes, eux, l'avaient laissé tomber lors des élections régionales de 2015. C'est naturellement que Christophe Castaner rejoint très tôt le bouillant candidat. La suite, vous la connaissez. Porte-parole habitué, virtuose des plateaux prestigieux, chef d'orchestre d'un ensemble encore balbutiant, l'ancien maire de Fort-Calquier est bien en vue aujourd'hui et n'oublie jamais son territoire. Nos interviews n'ont pas ralenti, malgré sa vie parisienne, tant mieux. Qu'on me permette cependant de reprocher à La République En Marche des choix contestables. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune tout de suite, alors que des allègements attendus par le bon peuple étranglé arriveront plus tard. la taxe d'habitation qu'il faudra compenser vers des communes déjà lourdement pénalisées, les APL qui fragilisent encore les plus fragiles, la CSG alourdie pour les retraités, etc. Sans oublier la suppression brutale cet été des emplois aidés qui a laissé sur le carreau des seniors, des personnes handicapées ou des jeunes sans expérience dont les entreprises ne veulent pas et que les associations, parfois les communes, embauchaient, formaient et pérennisaient. C'est le cas de notre association Fréquence Mistral, une quinzaine de CDI au compteur sur 3 décennies. Je m'en suis ouvert directement lors de ces visites à Christophe Castaner et le président de notre radio, Emmanuel Bouterin, via notre syndicat professionnel qu'il préside aussi, le SNRL, a répondu aux interviews de Télérama, du Monde ou encore d'Alternatives économiques. La chasse aux profiteurs du dispositif, d'accord, mais que l'on regarde du côté des communes, des hôpitaux ou encore de l'éducation nationale. Nous verrons d'ailleurs si dans 2 ans, les personnels recrutés en priorité cet été seront pérennisés, comme le souhaite le gouvernement. Nous ne sommes pas loin de la radio en évoquant ces sujets. J'ai l'honneur et le plaisir de diriger une association qui fêtera ses 35 ans d'existence cette année. De Briançon à Castellane, en passant par Digne, Gap, Sisteron, Manosque, demain nous l'espérons Marseille, Fréquence Mistral est une référence dont nous pouvons être fiers. Médias indépendants, libres, citoyens et solidaires, nous continuerons notre chemin avec énergie. À Briançon, pour accompagner les migrants et les bénévoles hauts alpins qui sont l'honneur de la France. À Castellane, où nous informerons les touristes des dangers qui les guettent en été comme en hiver. À Gap et Digne, magnifique chef-lieu de départements en souffrance, mais qui recèle bien des atouts. Enfin aussi à Sisteron, où nous sommes nés d'une poignée de citoyens précurseurs en 1983. Et bien sûr, Manosque, d'où je vous parle, cœur d'un dispositif associatif et médiatique unique. Nous continuerons à vous divertir et vous informer, les 2 missions de tout média audiovisuel. Merci, chers auditeurs, de nous être fidèles. Merci à nos partenaires financiers pour leur aide. Merci à tous nos animateurs et administrateurs bénévoles qui nous soutiennent et nous aident régulièrement. Et enfin, merci aussi à toute mon équipe salariée pour le travail réalisé pour certains depuis des années, pour d'autres depuis quelques mois à peine, mais avec autant de passion pour nos territoires et nos valeurs. Restons attentifs à la marche de nos départements, de notre région et de notre pays comme de la terre entière, rendons-la plus solidaire, plus souriante, plus accueillante, bref, plus mistralienne. Bonne année 2018.
René Massette a été élu à la présidence du 04 en septembre.
Un petit séisme politique après le décès de Gilbert Sauvan des suites d'une longue maladie. Le conseil départemental devait élire son successeur et 3 blocs se dessinaient. Les soutiens d'Emmanuel Macron, la droite classique et les socialistes. Après des jours de tractation, la gauche socialiste obtenait le soutien des élus de droite au second tour. L'élection de René Massette laissera un goût amer chez ses anciens camarades. Retour sur notre reportage du 2 octobre 2017.
René Massette est le nouveau président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence.
Le moins que l'on puisse dire est que l'ambiance était tendue vendredi dernier à l'hôtel du département. En jeu, la présidence de l'assemblée départementale et sa gouvernance. Ces dernières semaines, contacts et tractations allaient bon train avec 3 candidats déclarés. Claude Fiaert, d'abord, pour la majorité départementale, tendance République en marche. Jacques Bresse, pour l'opposition de droite. Et enfin, René Massette, se revendiquant lui aussi de la majorité départementale, mais côté Parti Socialiste. Et c'est ce dernier qui a été élu après le retrait en sa faveur de Jacques Bresse. René Massette a construit un attelage tenant compte de ses votes. Des élus, les Républicains, siègent donc aux côtés des socialistes et apparentés. Tous s'opposent à la politique gouvernementale. La parité est aussi respectée. 5 femmes, mesdames Ponce, Gassier, Primitera, Reynaud, Morino et Berki, et 4 hommes, messieurs Pourcin, Pétrini, Bresse et Dubois. Au micro d'Odile Frison, les 3 candidats à l'issue de l'élection. Et d'abord, René Massette, nouveau président, qui veut rassembler et s'inscrit dans la continuité de Gilbert Sauvan et Jean-Louis Bianco. René Massette.
Bien, je suis d'abord heureux que l'élection soit terminée. parce que la tension ces derniers jours était palpable, même si, comme vous avez pu le constater, nous sommes tous des gens raisonnables et nous sommes d'abord avant tout des amis, et donc ça se passait bien, mais il y avait quelques tensions qui étaient dues au positionnement politique des uns et des autres. Ce que je veux dire, c'est que une fois l'élection terminée, eh bien, tous ensemble, on doit se mettre au service des habitants de ce département, comme on l'a toujours fait, et avec présent à l'esprit le fait qu'ils nous attendent. Ils nous attendent, et à l'heure actuelle, avec ce qui se trame au niveau du gouvernement, les collectivités sont très très inquiètes sur les baisses de dotation. Les citoyens sont très inquiets aussi en ce qui concerne leur baisse de pouvoir d'achat, et donc il nous appartient à nous de faire en sorte d'être la collectivité de deuxième rang, respectée et respectueuse de chacun.
Quel va être votre programme ?
Mon programme, il est contenu dans la plateforme qui nous a permis d'être élus en 2015, donc je ne l'ai pas forcément en tête, mais si vous voulez, je vous ferai passer cette plateforme, et ça, c'est tout le respect que l'on doit à Gilbert Sauvan. Cette plateforme avait été faite avec lui, pour lui, de façon à avoir une majorité départementale, et ça nous a permis de conquérir 10 cantons sur 15 à ce moment-là. Immédiatement, nous allons procéder à l'élection des vice-présidents, et donc vous aurez la première vice-présidente, dans l'ordre. Voilà.
Claude Fier, comment vous vivez cette élection ?
Ben écoutez, je ne le vis pas très bien, mais c'est évident, il y a beaucoup de déceptions lorsqu'on s'engage dans une telle campagne, parce que ça a été une campagne très rude. On est déçu, mais après il faut passer le cap. Vous savez, en politique, il y a des défaites, il y a des victoires. Je crois que ça nous construit, et puis il n'y a peut-être pas que la politique dans la vie aussi. De toute façon, on travaillera ensemble, ça c'est clair. Je crois que l'intérêt, c'est pas le nôtre, c'est pas celle de René Massette, de Claude Fiart. L'intérêt, c'est celui du département. Donc à chaque fois que ce sera nécessaire, je soutiendrai ces politiques lorsqu'elles iront dans l'intérêt du département et en phase avec mes convictions.
Jacques Bresse, après le premier tour, vous aviez eu 11 voix contre 10 pour Claude Fiart et 9 pour René Massette. Vous êtes retiré pour le second tour, pourquoi ?
Je suis retiré, comme je l'ai annoncé dans ma déclaration, je crois que nous savons compter. Nous connaissons l'équilibre politique du département. Nous sommes 8 de droite, il y a 2 conseillers départementaux du centre et il y a 20 conseillers départementaux de gauche qui se seraient retrouvés toujours plus ou moins. Donc avec aucune réserve de voix, j'ai préféré me retirer avec une équipe avec laquelle, c'est un secret pour personne, les pourparlers avaient été entamés, et avec la certitude, j'ai confiance, que nous participerons à l'exécutif du département.
La mobilisation pour les migrants à Briançon.
C'est un sujet que nous avons évoqué plusieurs fois en 2017. De nombreux bénévoles sont mobilisés depuis novembre 2015 pour aider les migrants, dont certains passent par l'Italie et arrivent à pied en France. C'est d'ailleurs toujours le cas en plein hiver, mais depuis quelques semaines, la presse nationale s'en fait enfin l'écho. Revenons à la réquisition cet été à Puy-Saint-Pierre d'une maison inoccupée mais déjà célèbre car elle appartenait à Marcel Enfouxe. Laura Giraud a rendu visite aux personnes qui l'aménageaient.
Bénévoles réquisitionnent une maison pour accueillir des migrants.
Malgré l'ouverture par la communauté de communes du Briançonnais de l'ancienne caserne des secouristes en montagne de la CRS à côté de la MJC, de nombreux citoyens constatent l'absence de propositions de logement et des ressources existantes insuffisantes. Une quarantaine de Briançonnais ont décidé d'investir les lieux et de rénover la maison de Marcel Enfouxe à Puy-Saint-Vincent. Cet agriculteur, décédé tragiquement en 2012 dans un accident de voiture, avait fait la une des journaux avec sa femme Sandrine de Villard, de 25 ans, sa benjamine. Un mariage douteux, une mort suspecte, la justice n'ayant pas tranché sur la succession de la maison, les citoyens souhaitent faire de ce lieu un espace de vie et d'accompagnement pour les migrants. Ces derniers arrivent de plus en plus chaque jour entre Montgenèvre et le col du Galibier, 15 personnes par jour en moyenne. Il lance un appel aux dons et aux talents de chacun pour la rénovation et l'aménagement de ce lieu plutôt austère. Les travaux sont en cours. Laura Giraud s'est rendue sur place. 2 citoyennes ont répondu à ses questions.
suis chez Marcel, donc vous avez réquisitionné sa maison. Dans quel but ?
Dans le but de pouvoir accueillir toutes les personnes qui passent les frontières, les sans-papiers notamment, qui arrivent de l'Italie en principal, qui arrivent en grand nombre tous les jours, une quinzaine par jour en moyenne, et qui c'est aussi par manque de moyens et de lieux pour les accueillir. C'est essayer de remettre en état cette maison pour pouvoir les accueillir.
D'ailleurs, on voit, vous faites pas mal de travaux.
Là, ça fait plus d'une semaine là qu'on a attaqué les travaux. Donc, on est une bonne équipe, une grosse équipe là de motivés. On retape tout pour les accueillir dans un lieu décent et sain, avec des moyens de chauffage adaptés, pour qu'ils se sentent chez eux enfin pour une première fois depuis pas mal d'années qu'ils ont quitté leur pays. Il faut savoir que quand même, ils quittent des pays qui sont en guerre, donc souvent des Soudanais. Après, on a pas mal d'Africains de Côte d'Ivoire et de Guinéens. Et eux, donc, pour plus des raisons économiques, mais qui sont quand même des sans-papiers et qui arrivent à la frontière en grand nombre. Nous, on avait envie de pallier ce manque que la société ne prend pas en charge ces personnes. On a décidé de se mobiliser pour les accueillir décemment, dans un grand esprit de solidarité, et pour se battre contre la militarisation des frontières et contre le retour en Italie.
Avez-vous besoin de personnes qui s'y connaissent un petit peu dans les travaux ou de dons ?
On a besoin un peu de gens qui font un peu tous les travaux, donc que ce soit peinture, un peu travaux en tout genre dans le bâtiment. Après,
de la plomberie, on va remettre un peu tout en état, l'électricité aussi. Et après, en termes de dons, tout ce qu'il faut pour remplir une maison, de la literie, de quoi faire de la cuisine, ça peut être un poêle pour se chauffer. Un peu tout ce qu'il faut dans le quotidien, quoi.
Sachant qu'on a déjà pas mal de personnes qui nous ont contactés là pour faire des biens solidaires, des hôtels, des gens à part entière qui nous ont contactés, qui nous proposent de récupérer des lits, des armoires, parce qu'en fait on est en train de tous se rendre compte qu'on est bien manipulé, que ces personnes sont bien délaissées. On a des majeurs délaissés, des mineurs complètement isolés, non pris en charge par la société. Du coup, nous on accueillera essentiellement des majeurs, parce que les mineurs, soyons sincères, normalement c'est l'État qui doit prendre en charge, et notamment l'aide sociale à l'enfance et le conseil départemental. Donc nous n'accueillerons que des majeurs qui arrivent des frontières, des sans-papiers de toute origine.
Avez-vous des projets à venir ?
Dans cette maison, donc dans un premier temps, ce sera l'accueil, mais aussi on a envie de mettre en place pas mal d'événements autour de soi, de repas participatifs. Par exemple, si on accueille des Soudanais, ce sera un repas soudanais, et toutes les personnes pourront venir déguster ça et qu'on va faire tourner un chapeau, ou bien ce sera don libre. Et sinon, il y en a certains qui adorent les activités manuelles, donc on va aussi faire des petites expositions où les gens pourront venir. On a vraiment envie de faire de ce lieu un lieu de vie vraiment avec la population et les sans-papiers, et qu'on devienne plus fort grâce à ça, en mêlant population de Briançon et autres, parce que tout le monde sont les bienvenus, Tout le monde peut venir de partout de la France nous rencontrer, venir nous voir, nous aider, faire des dons, venir rencontrer ces personnes qui demandent qu'une chose, pouvoir demander l'asile en France, et parce que c'est quand même leur droit, et donc les accueillir décemment, c'est notre premier but en tout cas.
Où pouvons-nous vous contacter ou trouver plus d'informations ?
Vous pouvez nous contacter sur le blog qu'on a créé, donc c'est refugeeswelcome05@riseup.net. Donc là, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, c'est avec plaisir qu'on reçoit tout le monde, que ce soit pour un coup de main, pour boire l'apéritif, pour boire un café, pour boire un thé, on a besoin de monde, et puis des petites mains, et puis des sourires, et de la joie et de la bonne humeur.
À la mode du Caire, les habitants défendent leur poste.
La défense des services publics, c'est un thème que nous abordons régulièrement et des préoccupations que nous partageons. En février 2017, les habitants de la mode du Caire, dans les Alpes-de-Haute-Provence, montaient au créneau pour défendre leur bureau de poste.
La mode du Caire veut garder sa poste.
Jeudi 23 février, 11h du matin, le petit bureau de poste du village de la mode du Caire a vu une centaine de personnes se rassembler devant ses portes, tous venus protester contre les mesures souhaitées par Philippe Val, PDG du groupe La Poste, décidé à réduire progressivement les heures d'ouverture du bureau de la motte. Cette fermeture partielle étant ressentie par les manifestants comme la voie sournoise à une fermeture pleine et définitive. Considérant les critères de rentabilité, Philippe Val privilégie les bénéfices engrangés par la banque postale plutôt que ceux du service postal, oubliant complètement les besoins de la population. Co-responsable du collectif de défense des services publics de la Poste du Pays de la Motte-Turier, René Barthes veille au grain. Il revendique au micro de Julie Carrier le droit à l'accès aux services essentiels de son village.
Eh bien, cette manifestation du 23 février devant le bureau de poste à Motte-du-Caire a le but de montrer l'attachement des usagers, des habitants, je dirais même des citoyens, à l'existence de leur service public et de leur poste en particulier, comme poste plein exercice, capable de répondre aux besoins qui sont les leurs. Et comme il y a des menaces sur ce bureau comme sur d'autres, hélas, nous réagissons. Monsieur Tantôt, le responsable régional, explique ce que nous savions déjà. La Banque Postale a l'intention, d'ici 2020, de ramener le nombre de bureaux de poste de 3 à 4 000 de postes de plein exercice. Mais ils multiplient les formules, encore une fois, au rabais, qui ne font pas le compte. Ils font, dans certains endroits, la fermeture est actée, faite. Ici, ils ont commencé en novembre à fixer une fermeture. Ce sont des étapes, tout ça, vous voyez, au samedi matin. Vous pouvez constater, si vous venez le samedi, que le samedi matin, ça reste ouvert. Non pas parce que les décideurs de la Poste se sont eu du remords, se sont dit ça pénalise les habitants, mais tout simplement parce qu'il y a eu 500 signatures, parce qu'il y a eu des réunions publiques, parce que le village est conscient de l'enjeu, pas seulement en tant que poste, mais en tant que vie du village. Voilà.
Qui prend les décisions alors de diminuer les services de la Poste à la Motte-du-Caire et pour quelles raisons?
Mais les actionnaires de la... Je lirai tout à l'heure la déclaration de M. Voile, PDG de la Poste. Ce monsieur brasse des milliards, ce monsieur fait des opérations de fusion-acquisition, comme toute banque. Mais la question du service public, c'est pas très très intéressant, c'est moins juteux, vous comprenez. Donc on diminue les horaires, c'est ce qu'ils tentent de faire. Ailleurs encore, ils ferment carrément, il n'y a même plus qu'une boîte aux lettres, etc. Donc, c'est un processus global qui est nocif aux intérêts des habitants, pensons-nous.
Sur le tract, vous indiquiez aux manifestants de prévoir 85 centimes pour acheter un timbre. Pour quelle raison?
Oui, alors, dans les trucages donnés par les décideurs de la Poste. Par exemple, baisse du courrier due à la numérisation, c'est pas un scoop. L'arbre cachant la forêt, ils oublient de dire qu'ils ne comptent pas dans le courrier, ni les colis, ni les pubs, toute une série de fonctions. Donc, pour la fréquentation de la Poste, ils ont aussi leurs propres critères. Dans certains endroits, on envoie les gens chercher de l'argent plutôt à la machine. Comme ça, ils sont pas comptabilisés, vous voyez. Donc, nous faisons aujourd'hui 85 centimes pour les prix augmentés. Pour le timbre, pour faire la démonstration que les gens ont besoin de la poste, ils vont acheter un timbre, ce qui obligera si l'on achète 100 timbres pour le mois, ça compte comme une entrée. Là, nous faisons montrer que les gens ont besoin de la poste pour mettre un peu les pendules à l'heure, vous voyez. Ce sont des choix, ce sont des choix pour les actionnaires. Je citerai tout à l'heure Monsieur Voile, l'ancien PDG de la Banque Royale d'Écosse, qui est aujourd'hui PDG de la Poste, qui dit, si vous saviez quel bonheur c'est de passer 5,5 milliards dans un week-end pour que telle entreprise rachète telle autre compagnie. Bon, et là-dedans, vous comprenez, les gens, c'est vraiment pas leur préoccupation. Mais les gens existent et ils se laissent pas faire. Voilà.
Si le rassemblement ne porte pas ses fruits aujourd'hui, quel autre recours ont les motois?
Ben, nous sommes un collectif démocratique, pluraliste. Il n'y a pas ici de savoir ni ce que vote un tel, ni s'il va à l'église. Nous sommes mus par l'intérêt d'usager, de l'habitant et du citoyen. Et donc, nous ne voulons pas nous résilier à une régression. Oui, on voit des villages complètement abandonnés. Nous ne voulons pas de cela. Il y a déjà beaucoup de moyens qui ont été perdus à plus d'un titre. La perception, enfin, je ne vous donne pas la liste, on va être à tout à l'heure. Donc, plus il y aura de monde, et vous voyez qu'il y a déjà quand même un petit peu de monde, mieux cela vaudra. Nous prendrons acte de la décision, de la détermination des citoyens, des habitants, et nous leur demanderons. Êtes-vous prêts à aller jusqu'à Digne, le jour de la commission paritaire, etc., sortir cette belle banderole, touche pas à ma poste? Oui, ces questions-là sont ouvertes. Ce qui est sûr, c'est que à la dynamique régressive, à la dynamique de... qui n'est pas vrai que pour la Poste. Nous avons le plus petit collège du département, et je sais, pour connaître bien même ce secteur d'activité, que la mutualisation des moyens, la création de réseaux entre collèges, tout ça, c'est vraiment des questions budgétaire de diminution de moyens. Les collègues là-bas, comme ceux de la Poste, sont en des conditions de travail aggravées. Mais l'argent va ailleurs que dans les services publics. À Gap, il y a 30 fermetures à l'hôpital de Gap. Les infirmières, l'autre jour, me disaient « Mais maintenant, c'est l'horreur, on n'est plus que 15, c'est peut-être un peu inexact. Ils sont sous stress permanent. » Ça, c'est pas une gestion ni humaine, ni même efficace. Parce que pour ce qui est de la Poste, des études médicales ont fait état de burn-out, de suicide et compagnie. Bon, dans le même temps, quand vous avez des postiers qui se baladent, qui n'ont pas le temps de s'arrêter de discuter parce qu'ils ont une machine qui contrôle où ils sont, combien de temps, etc., là, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi, vous voyez.
Surtout dans nos petites régions, en fait.
Et surtout, bien entendu, je le traiterai tout à l'heure, hein, c'est pas simplement la Poste, c'est les petits villages. Veut-on que l'espace rural les périclite ? Nous ne le voulons pas. Nous ne résignons pas à des choix, je crois, des choix de société qui ne sont pas conformes aux intérêts des gens. Et la suite, ça dépendra.
A été aussi l'occasion pour nous de lancer des campagnes d'information.
Actuellement d'ailleurs se déroule celle liée au risque de la montagne et de la neige. C'est une idée que nous avons développée avec le sous-préfet de Castellane, Christophe Duverne, et cet été nous informions touristes et habitants sur les risques de la chaleur ou des sports en eau vive. Je vous propose de retrouver notre reportage réalisé au bord du lac de Sainte-Croix en juin dernier.
Gorge du Verdon et lac, ils assurent la sécurité cet été.
Sous l'égide du sous-préfet de Castellane, Christophe Duverne, les services de l'État et leurs partenaires ont présenté les dispositifs de sécurité déployés cet été dans le Verdon. L'afflux considérable de visiteurs n'est pas sans poser problème quant à leur propre sécurité. L'insouciance liée aux vacances, la méconnaissance du territoire et aussi les dangers naturels des cours d'eau et forêts rendent la période préoccupante pour les pouvoirs publics. La mort accidentelle d'un touriste chinois lors d'un plongeon ces jours-ci, malgré les panneaux d'interdiction, le rappelle de manière brutale. Aux côtés du sous-préfet du Verne, pompiers, gendarmes et éco-gardes du parc du Verdon ont présenté leurs dispositifs, dont les patrouilles lacustres et en bord des lacs de Sainte-Croix et Esparon, en insistant aussi sur la bonne entente, cruciale, entre leurs hommes via des communications radio sur le terrain et des réunions régulières. Et puis de notre côté, Fréquence Mistral diffusera tout l'été des messages de prévention à l'intention des visiteurs réalisés avec les acteurs de la sécurité. Nous mettons notre outil radiophonique à disposition des services de l'État pour informer au plus près les touristes des dangers de la route ou des sports en eau vive. J'en profite pour remercier mes collègues de Castellane, Véronique Hermand et Olivier Mouly, qui mettent en onde ces messages que nous entendrons dès la semaine prochaine. Pour l'heure, je vous propose d'écouter le sous-préfet du Verne, puis Patricia Brun, la maire de Moustier-Sainte-Marie, lieu touristique par excellence où s'est déroulée la présentation du dispositif estival. Christophe Duverne, sous-préfet de Castellane.
J'ai souhaité faire ce point en début de saison pour permettre aux différents acteurs du territoire, que ça soit la mairie de Moustier-Sainte-Marie, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, le parc du Verdon, de pouvoir présenter les dispositifs de sécurité mis en place justement pour accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les touristes qui fréquentent notre beau territoire.
Avec une affluence effectivement estivale importante, c'est un territoire aussi de tous les dangers.
Dangers multiples au niveau des routes, la route des gorges, route sinueuse de montagne, donc pour les personnes qui vivent en ville et en plaine, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas. Également au niveau des canyons, des lacs, avec des endroits où il ne faut pas nager, des endroits où il ne faut pas sauter, les falaises également du Verdon avec des particularités. Et donc l'idée est de pouvoir accueillir les gens toujours dans cette idée de ne pas interdire pour interdire, mais de pouvoir passer de bons conseils pour qu'ils puissent en avoir connaissance et derrière adapter leur comportement.
Avec notamment par exemple les éco-gardes du parc du Verdon, mais aussi les gendarmes qui font passer des messages de prévention.
C'est-à-dire que souvent on oppose la prévention à la répression. Non, c'est un tout. Avant tout, la mission de la gendarmerie et des éco-gardes est une mission préventive, c'est-à-dire d'être sur le terrain, occuper le terrain, aller à la rencontre des touristes pour faire passer des messages de sensibilisation sur la préservation de l'environnement, la lutte contre les feux de forêt, la sécurité routière et tout cela. Et évidemment, sur certains comportements, il faut qu'il y ait un aspect répressif. Parce qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les lieux, qui ne respectent pas les autres, et il faut que la puissance publique soit là pour leur faire comprendre que non, à un moment, il faut sanctionner. Mais toujours rappeler, effectivement, que cette sensibilisation est essentielle parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des personnes de mauvaise volonté, mais qui ne connaissent pas les dangers du territoire. Donc, il y a un rôle aussi pour essayer de les éclairer, essayer d'adopter le meilleur comportement possible.
Il y a une population touristique particulière dans les gorges du Verdon et sur le plateau de Valensole, par exemple. En été, c'est évidemment nos amis asiatiques. Difficile de toucher cette population, ne serait-ce que linguistiquement parlant.
Tout à fait. Il y a bien évidemment la barrière de la langue, même si aussi au niveau des personnes qui accueillent les touristes, les professionnels, que ce soit les offices de tourisme, aussi certaines personnes s'ouvrent à cette nouvelle clientèle, mais il y a la barrière de la langue. Donc à côté, il faut se mettre à leur disposition et faire passer des messages avec des personnes qui ont des cultures aussi différentes, qui ont des connaissances différentes. Un exemple, que ça soit sur le plateau de Valensole ou dans les gorges du Verdon, quand ce sont des personnes qui viennent bien évidemment en avion, ils louent des véhicules de location en France. Et c'est vrai que les paysages sont tellement beaux qu'ils vont garer leur véhicule n'importe où, sans se rendre forcément compte des dangers aussi qu'ils peuvent occasionner. Donc là, c'est le rôle de prévention des uns et des autres en disant « Vous êtes les bienvenus ». Mais il y a des règles. Et à côté, en sortie d'un virage, on ne se gare pas. Même si les paysages sont magnifiques, on fait un petit peu plus de route, on s'arrête, on trouve un petit parking, etc., etc. Donc ça, c'est des messages qu'il faut répéter très, très régulièrement.
Et puis, monsieur le sous-préfet, sous le pont du Galetas et ici au lac de Sainte-Croix, on a signé la radiofréquence Mistral que je représente et l'État que vous représentez. On a signé également une convention pour permettre de faire au plus près l'information des personnes avec tous les services de sécurité qui ont été mobilisés pour faire passer ces messages radiophoniques.
Alors déjà, je tenais à vous remercier de ce partenariat et également cette innovation. Parce que je trouve qu'on essaie de diversifier vraiment pour toucher le plus de personnes possible. Donc à côté de la presse écrite, il est important aussi que des radios comme les vôtres, qui ont vraiment une mission de service public, au plus près du territoire, puissent s'associer aux représentants de l'État, certes, mais également aux mairies, également à la gendarmerie. Vous avez cité tout à l'heure la gendarmerie, les pompiers, mais il y a EDF aussi avec les hydroguides. Il y a l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse sauvage et aussi les collègues de l'Agence française de la biodiversité. Mais toutes ces personnes-là sur les territoires ont le même but, c'est de permettre aux personnes qui fréquentent ces territoires de passer les meilleures vacances possibles. Et c'est pour ça qu'en partenariat avec vous, on a donné ce beau nom quelque part qui est prudence et vigilance pour des vacances réussies dans le Verdon. Parce qu'on ne voulait pas seulement mettre en avant le côté sécurité des choses, bien évidemment, mais surtout c'est se dire la sécurité avant tout, on en est maître quelque part. Et quand on vient sur un nouveau territoire, on peut passer de bonnes vacances, on peut agir en toute liberté, mais il faut pouvoir se renseigner, il faut pouvoir se dire, ben voilà, il y a une falaise, est-ce que j'ai le droit ou pas de sauter? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a de l'eau, mais est-ce qu'il y a 5 mètres de fond? Est-ce qu'il y a 1 mètre 50 de fond? Et effectivement, c'est important. Parce qu'il faut accueillir ces touristes dans les meilleures conditions possibles, qui ressortent entiers.
Et nous allons les accueillir en les informant également sur la sécurité, sécurité publique notamment, avec la diffusion de ces spots. Patricia Brun, vous êtes maire de Moustier-Sainte-Marie, un village magnifique, une marque dans les Alpes d'Haute-Provence. Est-ce que vous appréhendez la période estivale ?
Alors appréhender, non, on peut pas vraiment dire ça, mais on a toujours une pensée à se dire, on espère que cette année tout va se passer comme il faut, qu'il ne va pas y avoir de graves accidents. Comme je le disais, on habite un site magnifique qui attire du monde, et tant mieux. On partage notre site sans problème. Que les Asiatiques viennent de l'autre bout du monde jusqu'à chez nous, c'est même flatteur. C'est vraiment quelque chose de remarquable d'accueillir des touristes qui viennent donc de l'autre côté. Mais ces mêmes touristes, parfois, ne sont pas justement conscients que la nature a aussi ses dangers. Et ce qui serait important, c'est de pouvoir trouver justement un lien qui nous rapproche de ces touristes qui n'ont pas les mêmes habitudes, pas la même culture que la nôtre, et à travers donc cette non-connaissance de nos règles, ne respectent pas certaines choses, notamment sur les routes, notamment ce qu'on a vu dimanche dernier ici sur le lac, cet accident. Comme je dis, venir de si loin, prendre l'avion, prendre la voiture, se retrouver sur un site magnifique, qu'ils trouvent magnifique puisqu'ils viennent par rapport aux images qu'on a fait à travers donc un téléfilm qu'il y a eu il y a quelques années de ça et qu'ils ont dans leur pays, arriver jusqu'ici pour finalement se retrouver devant une situation dramatique, je trouve ça vraiment désolant. Moi, je pense qu'on devrait avoir une communication avec eux, mais que cette communication n'est pas si évidente par rapport à notre différence de culture. En même temps, je voudrais remercier aussi tous les services de l'État qui nous aident, parce que c'est important. Ce pourquoi, justement, je n'ai pas d'appréhension, c'est que je me sens soutenue, malgré tout, par les services de l'État. C'est vrai que, comme je disais, on manque de personnes, mais ça, c'est un autre problème. En attendant, on a la volonté des hommes qui sont sur le terrain. On sent cette volonté, une équipe, un partenariat qui est important, qui est réel. C'est pas juste des paroles autour d'une table, c'est aussi un travail de terrain. La preuve aujourd'hui, donc, monsieur le sous-préfet qui est avec nous sur le terrain. Et c'est pas la première fois, il est pas là aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Ça se fait régulièrement. Donc on se sent compris, on se sent écouté et on a des échanges qui sont justement constructifs. Et ça, c'est important.
Donc vous êtes confiante pour cet été ?
Je suis confiante. Après, comme je dis, on ne peut pas empêcher les touristes d'être attirés par cette nature et malheureusement de se prendre au piège. Mais oui, je suis confiante parce qu'on est quand même un beau partenariat et on se soutient les uns les autres.
Quelques brèves, François ?
Non, pas de brèves, mais simplement vous dire qu'on va continuer notre rétrospective sur l'année 2017 demain dans le journal avec la venue d'un candidat à la présidence de la République. C'était à Fort-Calquier au mois de février, un certain Emmanuel Macron qui était là et puis bien sûr, il a répondu à nos interviews. On parlera également de démocratie participative avec avec Charlotte Marchandise qui était présente à Mandelieu-Lanapoul pour les universités d'été d'Utopia. Et puis la mobilisation des migrants à Digne notamment, nous verrons aussi que le FABALP dans les Hautes-Alpes amène aussi son lot de belles expériences et de belles actions. Et puis nous entendrons aussi un hyper grand champion de rallye automobile, Sébastien Loeb, qui était à Manosque au mois de mars dernier. Nous entendrons tout ça dans notre journal demain. Merci Amandine pour la régie. Je vous renouvelle tous mes vœux à tous de bonne année et de bonne santé. Et puis, à demain.
Merci François, merci tout le monde. Une bonne journée sur Fréquence Mistral.